السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، فنكرر الشكر والتقدير بعد حمد الله تبارك وتعالى لهذه الجلسات العلمية التي نرجو الله سبحانه وتعالى عنها الأجر والقبول. Nous remercions Allah سبحانه وتعالى, celui par lequel les bonnes œuvres se réalisent, et par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent. Nous remercions Allah سبحانه وتعالى, celui qui nous a facilité à nouveau cette assise, afin qu'on se rappelle ce qui nous sera utile et bénéfique dans ce bas monde et dans l'au-delà. Aussi, ce qui freine le plus le serviteur dans son bas monde, dans sa tombe et dans son au-delà, ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Ces éléments qui enrayent le bon fonctionnement et l'avancement et l'acheminement du serviteur vers Allah Azza wa Jal et la demeure de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer, après nous avoir informé que pour cela il nous avait tous créés. Il nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » في هذه الآية العظيمة بيان الحكمة من إيجاد الثقلين الإنس والجن، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أي إفراده بالتوحيد. وهذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا باتباع سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Ton Seigneur t'informe dans son livre qu'il ne t'a créé que pour que tu l'adores, c'est-à-dire que pour que tu l'adores d'un culte sincère, que tu l'unifies de par tes œuvres, tes actes d'adoration. Et cela ne pourra se concrétiser si ce n'est en suivant la voie du dernier prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, il t'a envoyé le meilleur des hommes, le meilleur de l'humanité, celui qui avait plus de pitié envers nous que nos propres parents en ont envers nos personnes, leurs enfants. Si on le suit, on lui obéit, on entrera au paradis. Si on lui désobéit, qu'on s'éloigne de sa voie, qu'Allah nous en préserve, on sera en enfer, iyadan billah. Et la pire des choses qui enraye cet acheminement vers Allah, qui obstrue cet acheminement vers la demeure de l'au-delà, ce sont les péchés. Et lors du dernier cours, nous avons énuméré un grand nombre d'effets dévastateurs des péchés. في دروس مضت وجلسات سبقت ذكرنا عدة آثار لهذه الذنوب والمعاصي من كتاب القيم للعلامة ابن القيم محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى وقد أوصلنا الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى فصل ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين وللمؤمنات. Reprenons la lecture du livre Adda ou Addawa, La maladie et le remède, du grand savant Mohammed ibn Abi Bakr, connu sous l'appellation d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Et nous sommes arrêtés, il y a quelques semaines passées, sur sa parole, et parmi les effets des péchés, la privation de l'invocation du messager d'Allah et de l'invocation des anges. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de demander pardon, d'implorer le pardon d'Allah pour les croyants et pour les croyantes. Dans sourate Muhammad, par exemple, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. Dans sourate Muhammad, Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète d'invoquer le pardon pour l'ensemble des croyants et l'ensemble des croyantes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala te dit ici que les péchés te font sortir de ces du'as du prophète alayhi salatu wa salam pour les croyants et les croyantes. Et te fait aussi sortir des du'as des anges pour les croyants et les croyantes. Car en faisant des péchés, en faisant des grands péchés, on tombe de la sphère des croyants à la sphère des simples musulmans. Parce que l'islam, comme vous le savez tous, comporte 3 degrés. N'est-ce pas? Quel est le premier degré? Al-Islam. Naam. Il s'agit de celui qui est attesté de la ilaha illallah, qui a un minimum d'action et un minimum de foi qui vient authentifier ses œuvres. Naam. S'il parfait les piliers de l'islam extérieurement et qu'il ajoute à cela la concrétisation de la foi intérieurement, il passe à quel degré? Le deuxième degré, comment est-ce qu'on l'appelle? Al-Iman. C'est celui qui a concrétisé l'extérieur, la salat, la zakat, le jeûne et ainsi de suite, et aussi l'intérieur. Usul al-iman sitta. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawm al-akhir wa al-iman bil qadari khayri wa sharri. Celui qui a concrétisé cet intérieur là et cet extérieur là, il a concrétisé le deuxième niveau. N'est-ce pas? Le troisième degré, c'est lequel? Al-ihsan, ahsant. Al-ihsan, c'est l'excellence. C'est quoi l'ihsan? Hein? Al-Ihsan, c'est le fait de concrétiser les 2 premiers niveaux, l'extérieur et l'intérieur, en adorant Allah Azza wa Jal, imma ala maqami al-mushahada, ou ala maqami al-muraqaba. Al-Ihsan, c'est le fait d'avoir concrétisé la partie intérieure, les piliers de la foi, la partie extérieure, les piliers de l'islam notamment, et d'adorer Allah Azza wa Jal soit avec la perfection de l'amour, comme si tu le voyais, soit avec la perfection de la crainte en ressentant sa surveillance. Dans le hadith Omar ibn Khattab, dans Sahih Muslim, hadith ou Jibril, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc celui qui ne cesse de commettre des péchés, il va dégringoler de ses degrés jusqu'à tomber du niveau des croyants. Ainsi, il sortira de ces versets qui englobent les croyants. C'est de cela que nous parle ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit la privation de l'invocation du prophète alayhi salat wa salam et des anges. Parce que dans ces textes, on parle des croyants. Et lui, à force de péché, et à force de grand péché, il est sorti de la droiture vers la perversité. Al-fisq huwa al-khuruj an ta'atillah. Fafasaqa an amri rabbi. Allah dit de shaytan, fafasaqa an amri rabbi. Il s'est éloigné de l'ordre. Il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Al-fasiq, c'est le musulman qui commet des grands péchés. On l'appelle al-fasiq al-milli parce que ahli sunnati wal-jama'a n'excommunient pas, ne font pas sortir de l'islam les gens pour tout grand péché. Donc c'est un musulman, mais qui a une foi faible. C'est un croyant de par sa foi, c'est un fasiq de par ses grands péchés. Il sort de ses ahadiths. Il sort de ses versets. Il sort des invocations du prophète alayhi salat wa salam en faveur des croyants. Et écoutez la dua des anges. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ceux qui portent le trône, ces anges-là, on les appelle Hamalatul Arsh. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent, ceux qui sont autour du trône d'Allah, d'autres anges, célèbrent les louanges de leur Seigneur et croient en lui. Et ils implorent le pardon en faveur des croyants. Ces anges-là font dua, font partie des meilleurs anges. Ils font dua pour les croyants. Quels sont ces dua? ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. Quels sont les dua des anges? Seigneur, tu embrasses toute chose de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Et épargne-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, accorde-leur les jardins éternels que tu leur as promis, ainsi que vertueux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs enfants, tu es certes le puissant et le sage, et préserve-les des effets des péchés. Tout ce qui est demandé ici, c'est pour les croyants. Mais celui qui reste dans ses grands péchés, qui ne revient pas vers Allah Azza wa Jal, n'est pas concerné. Ainsi, parmi les effets gravissimes des péchés, il y a le fait d'être éloigné des invocations du prophète alayhi salatu wassalam et des anges, car ici ils ont fait dua pour les croyants, pour les repentants, pour ceux qui suivent le Coran, pour ceux qui suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le grand pécheur, Naam, il s'est éloigné de cela. Il s'est éloigné de cela. Le chapitre suivant, wa min uqubatil ma'asi, ma rawahu al-Bukhari fi sahihi rahimahullahu ta'ala min hadithi Samura ibn Jundub. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous mentionne un autre chapitre sur les effets des péchés. Il va nous mentionner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu des choses. Et au lieu de nous citer directement les effets des péchés, dans ce hadith, le prophète alayhi salat wa sallam nous raconte le châtiment subi par des pécheurs. Chacun a eu comme rétribution selon ce qu'il œuvrait, selon ce qu'il faisait dans ce bas monde. وَمِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْبْرَ سَلَّمْ très souvent demandait à ses compagnons, هَلْ رَأَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَ رُؤْيَا. Est-ce que l'un d'entre vous a vu cette nuit passée une vision, c'est-à-dire un rêve, un rêve? فَيَقُصُ عَلَيْ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُصُ. Et qui le souhaitait lui racontait son rêve. وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاتْ. Et un jour il nous a dit, إِنَّهُ أَتَانِ اللَّيْلَ Atiyan. Cette nuit, deux me sont venus. Wa innahuma ibta'athani. Deux anges l'ont pris, l'ont fait se lever. وَإِنَّهُمَا قَالَ لِي إِنْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا. Ils lui ont dit avance, et j'ai avancé avec eux deux. وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُطَّجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ وَيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ. Le premier châtiment que le prophète alayhi salatu wasalam a vu, c'est un homme allongé. Auprès de lui, deux personnes. Un à sa tête, en ayant dans ses mains une grosse pierre. Et il lui jette sur le crâne. Son crâne part en morceaux. Et la grosse pierre roule et se déplace. Et le temps qu'il récupère cette pierre et revient à lui, sa tête s'est remise. Et il réitère cette action. Il lui jette cette grosse pierre sur le visage. Sa tête se décompose. La pierre roule. Il retourne récupérer cette pierre. Une fois de retour, sa tête est à nouveau remise. Et il ne cesse de répéter cette action. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, s'est étonné. Et a dit, Subhanallah, ma hadan. Il a dit, Subhanallah, exempt soit Allah de tout défaut. Mais qui sont ces deux-là? On lui a dit, intaliq, intaliq, avance, avance. Puis, ils sont arrivés à un homme, mustalqin liqafa. Mustalqin liqafa, c'est comme si toi, tu étais allongé sur le dos. D'accord? Mustalqin liqafa, c'est comme si lui était allongé. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَأُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِ أَحَدُ شِقَّيْهِ وَجْهِهِ. Un allongé sur le dos et l'autre avec un crochet en fer, il lui plante ici et il le remonte jusqu'à son œil. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il lui plante le crochet. Et il lui fend le visage jusqu'à son œil, en traversant sa face. Il part d'un bout et il lui déchire jusqu'à l'autre, en passant par son nez, en passant par son œil, jusqu'au derrière. Et lorsqu'il arrive à la fin, il vient pour recommencer et sa face est remise intacte. Alors il recommence, il lui plante son crochet et il lui fend le visage en le traversant. Une fois arrivé de l'autre côté, il réitère son action mais il retrouve que son visage est intact et il réitère cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah, man hadan, qui sont ces deux-là? Puis on lui a dit, intaliq, intaliq, avance, avance. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam est passé près d'une troisième personne. Ou plutôt, près d'un four. فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ. Nous sommes arrivés et il y avait tel un four. وَإِذَا فِيهِ لَغَتُونَ وَأَصْوَاتٍ. On entendait émanant de ce four du vacarme et des cris, des voix. فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاهُ. Et on a vu ce qui s'y trouvait. C'est alors que l'on vit des hommes et des femmes nus. Des hommes et des femmes tout nus. وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ. Alors qu'ils étaient ainsi, des flammes ont émané du sol, yani du bas, et ça les a consumés. Ils ont crié, ils sont montés vers le haut, on les a replongés. Et cette opération se renouvelait. Une flamme leur venait d'en dessous, et lorsque cette flamme les touchait, ils hurlaient. فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ هَاُولَا. Alors j'ai dit, ou plutôt, قُلْتُ مَا هَاُولَا. Qui sont ces gens-là? قَالَا لِي انطلق انطلق. Ils m'ont dit, les deux anges avancent. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ أَحْمَرٍ مِثْلِ الدَّمِ. En avançant, nous sommes arrivés auprès d'un fleuve rouge tel le sang. Rouge tel le sang. فَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحٌ. En arrivant à cet endroit, on a vu un homme dans l'eau, dans le fleuve, et il nageait sur la rive. ثُمَّ يَأْتِ ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ. Avant ça, وَإِذَا عَلَى شَاطِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةَ. Sur le bord du fleuve, un homme qui avait réuni des pierres, beaucoup de pierres, كَثِيرًا. Lorsque cet homme nageait, il traversait le fleuve d'un bout à l'autre. Arrivé au bout, cet homme qui avait réuni des pierres lui remplissait la bouche de pierre et il le repoussait. Il le rebutait à l'eau. Puis, il rebroussait chemin et nageait. À nouveau, il trouvait l'homme qui avait réuni des pierres. Une fois arrivé sur le bord, il lui remplissait la bouche à nouveau et le repoussait. Et il ne cessait de réitérer son action. À nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mahadhan, qui sont ces deux-là? On lui a dit, intaliq, intaliq. Ensuite, ils ont avancé et ils sont tombés sur une personne, ala rajulin karihil mar'ati, ka akrahi mar'ay, ma antara'in rajulan imra'a. Il dit, on a vu un homme qui avait l'apparence la plus laide qu'un homme puisse voir. Un homme avec une apparence la plus laide qu'un homme puisse voir. وَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. Auprès de cet homme-là, cet homme terrifiant, il y avait un feu. Et cet homme-là attisait ce feu. Naam, il évitait qu'il s'éteigne. Et il tournait autour de ce feu et il l'attisait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma hadha, qu'est-ce que cela ?» On lui a dit, « Avance, avance. » Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans un jardin où il y avait beaucoup de plantes, beaucoup de végétation, beaucoup de sortes de fleurs, comme au printemps. Et au milieu de ce jardin-là, il y avait un homme, tellement grand, que je n'apercevais presque pas sa tête. Autour de ce grand homme, il y avait énormément d'enfants, jamais je n'en ai vu autant. Autant. قُلْتُ مَا هَذَا وَمَا هَاُولَا. J'ai donc dit, qu'est-ce que cela? Allez, qui est cet homme et qui sont ses enfants? On m'a dit, intaliq, intaliq. Naam. Par la suite, nous avons alors rencontré, nous avons grimpé, nous sommes arrivés à une cité dont les constructions étaient de briques d'or et d'argent. Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes à entrer. On nous ouvrit. Nous avons alors rencontré des hommes au corps dont la moitié.
Des hommes, la moitié était la plus belle qu'elle soit. L'autre moitié, la plus laide jamais vue. Ensuite, on a demandé à ces hommes d'aller se jeter dans une rivière. L'eau qui coulait de cette rivière était blanche comme le lait. Ils y plongèrent, puis revinrent à nous. Et leur laideur avait disparu. Ils apparurent alors dans une grande beauté. Ils me dirent, « Voici le jardin d'Éden. » Jannat wa adn. Wa hadha manziluk. Et voici ta place. Puis le prophète alayhi salat wa salam a levé le visage, les yeux. Il a vu un palais tel un nuage blanc. Et on lui a dit, voici ta demeure. Il a demandé à y entrer. On lui a dit, maintenant, non. Naam. Mais tu y entreras. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إني رأيت منذ الليلة عجبا إني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال أما إن سنخبرك. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aux anges, cette nuit j'ai vraiment vu des choses extraordinaires. Et donc qu'est-ce que j'ai donc vu? Ils lui ont dit, désormais tu en seras informé. Puis les anges ont informé le prophète alayhi salat wa salam de chaque chose qu'il a vu. Le premier, est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il subissait? Il était allongé sur le dos, on lui jetait une grosse pierre sur le visage, sa tête se décomposait, et le temps d'aller récupérer la pierre, son visage était intact et on réitérait cette action. On a dit au prophète alayhi salat wa salam, فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. Il s'agit de l'homme qui apprend le Coran, puis le délaisse, et il dort lors de la prière obligatoire. Il dort au moment de la prière obligatoire. Donc ce châtiment-là, il est pour ceux qui ont appris le Coran et qui ne l'appliquent pas. Et parmi les ordres du Coran, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Parmi les ordres du Coran, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Parmi les paroles du Coran, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Tous ces versets qui ordonnent la préservation de la prière, de la prier à l'heure, de la prier dans son temps. Celui qui délaisse le Coran aura délaissé cet ordre. Quel est son châtiment? On lui jette une grosse pierre sur la tête, son visage se décompose, et il se remet, on lui réitère cette action, et ainsi de suite. Dans cela, il y a une grande exhortation. Le prophète, alayhi salatu wasalam, cette fois-ci, ne nous dit pas, celui qui fait ça aura cela. Non, il nous cite un exemple concret. Et que chacun de nous s'interroge. لو قيل لأحد منا غدا إن لم تستيقظ لصلاة الفجر لأدائها كما أمرك ربك سيلقى على رأسك هذا الحجر فمن منا يضيعها. Si un émissaire nous informait, demain, si tu ne te réveilles pas pour salat al-fajr à l'heure, pour l'accomplir comme Allah te l'a commandé, une grosse pierre sera jetée sur ta face et elle se décomposera. Qui parmi nous oserait ne pas faire toutes les causes possibles pour prier salat al-fajr à l'heure? Salat al-fajr, c'est ce qui marque la distinction entre celui qui se soucie de sa religion et celui qui ne s'en soucie pas. Et si l'humain peut être battu par Salat al-Fajr, Naam. Comme a dit le prophète sallam, si vous pouvez ne pas vous être battu par deux prières dans le hadith, naam, pour la cause de voir Allah Azza wa Jalla au paradis, la salat du fajr et la salat du asr, faf'alou, faites-le. Mais sa base et son habitude de vie doit être qu'il prie le fajr à l'heure. Quant à celui qui met son réveil pour le travail, pour les rendez-vous importants selon lui, ou ils le sont probablement, mais qui méprise ce rendez-vous avec le Seigneur des mondes qu'il a créé, naam, celui-ci n'a pas préservé sa foi. Celui-ci n'a pas craint son Seigneur. Celui-ci ne s'est pas soucié de sa religion comme Allah Azza wa Jal le veut de lui. Et parmi la grâce d'Allah Azza wa Jal, on voit des enfants désormais qui disent à leurs parents, réveille-moi pour Salat al-Fajr. Ala yastahi al-wahid minna an yara waladahu as-saghir wa yasma'ahu yaqul abi la tansani abi qul li idha ja'a al-fajr akhruj ma'ak thumma anta al-kabir anta al-walid al-rahim anta tanam nahnu nanam. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas avoir honte de voir l'enfant dire à son père, réveille-moi pour la prière du Fajr. Dis-moi pour le Fajr, je prie le Fajr. Et ensuite, nous les parents, on va dormir pour Salat el Fajr. Quel mauvais exemple éducateur serions-nous alors? Wala hawla wala quwwata illa billah. Et la préservation de Salat el Fajr requiert de ta part plusieurs choses. La première, de savoir que le Muhyi et le Mumit, c'est Allah. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous fait mourir durant la nuit, c'est Allah qui nous redonne notre âme. Alors il faut demander au détenteur de notre âme de nous donner la vie. Et lorsque tu vas dormir, tu prononces la dua. Tu dis quelle dua, jeune homme, avant de dormir? Tu te rappelles? Derrière toi. Avant de dormir, tu fais une dua? Oui? Laquelle? Tu te rappelles pas parce que t'es réveillé? Des fois, il y a des duas, elles ne reviennent que au moment où on les prononce. Si tu t'en souviens pas maintenant, c'est pas grave. Mais avant de dormir, faut pas oublier, d'accord? Barakallahu fik. Comment tu t'appelles? Abdurrahman? Barakallahu fik. Qui dit une dua avant de dormir? Qui dit deux duas avant de dormir? Qui dit trois doigts avant de dormir? Qui dit quatre doigts avant de dormir? Tu dis combien de doigts avant de dormir? Et toi? Trois? Allahumma barik. Tu dis laquelle? Bismikallahumma amut wahya. T'as entendu ton frère? Tu veux qu'on l'apprenne? La doua? Tu veux que je te l'apprenne? Tu la connais déjà? Répète-la moi. Bismikallahumma amut wahya. C'est celle-ci que je voulais. Quand tu n'as pas répondu, t'avais oublié. Bismikallahumma amut wahya. Rappelle-moi ton prénom. Obeid. Allahumma barik. Toi, tu dis quelle doua avant de dormir? Bismikallahumma amut wahya. Toi, tu dis laquelle? Les trois protectrices. Et quel Coran vous récitez avant de dormir? Ayatul Kursi. Redonne-moi la parole, jeune homme. Je te l'ai prêté, je ne l'ai pas donné. Assieds-toi, starih. Toi, tu dis quel dua? Tu lis du Coran avant de dormir? Tu récites? Ayatul Kursi. C'est bien. Aïs, la même chose. Toi, quand je t'interroge, pourquoi tu regardes ton petit frère? Dis-moi, qu'est-ce que tu dis avant de dormir? Comme ça, si j'oublie, tu vas me rappeler. Tu récites du Coran? Du Coran? Dis-moi lesquels? Al-Falaq et Al-Nas, tu veux dire Qul Wallahu Ahad, Al-Ikhlas. Naam. Trois fois. D'accord. Tu fais quelque chose après avoir récité? Non? Et toi, tu fais quelque chose après avoir récité? Et toi? Non plus? Qu'est-ce qu'il serait bien de faire après avoir récité Al-Ikhlas et Al-Mu'awidhatayn? Vous savez ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam? Non? Et toi? Vous avez une petite baisse de régime, les enfants de Tangier. Vous m'avez habitué à beaucoup mieux. Pourquoi t'as claqué des doigts? T'as claqué des doigts ou j'ai mal entendu? T'as claqué des doigts? Par inadvertance? Hey, traduis-lui ce que j'ai dit. Faut pas claquer des doigts. T'es pas au Mali ici. D'accord? Donc, vous connaissez pas la sunna? Quand vous restez, qul Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, j'en suis obéi, tu connais. Non? Après tout à l'heure, tu vas me dire, ah, je connais. J'en suis sûr. Toi? Allahumma barik. Qu'est-ce qu'on fait en récitant qul wallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas avant de dormir? On va pas poursuivre le cours tant que vous n'aurez pas répondu à cette question. Des fois, les enfants, ils sont trop intelligents. Les questions difficiles, ils répondent facilement. Les questions trop faciles, c'est tellement facile qu'ils sont ils sont trop au-dessus. Donc, ils voient pas la chose petite. Naam, c'est la bonne opinion qu'on a de vous. Donc, t'as la réponse? Non? Toi, t'es trop motivé, baisse la main, tu me mets mal à l'aise. Donc, t'as la réponse, jeune homme? Dis-moi. Excellent. Écoutez, votre frère, réponds plus fort. On crache trois fois dans ses mains. Ensuite, tu récites quoi? Qul wallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Après, tu fais quoi? Ou tu t'arrêtes là? Ou tu fais quelque chose, toi? J'ai pas entendu après. Il a dit quoi, Farid? Voilà. Après, tu passes les mains sur toi. Ça, c'est une ruqya que le prophète, alayhi salat wa salam, se faisait à lui-même, sans demander la ruqya à qui que ce soit. Bien que lorsqu'on lui proposait étant malade, on accepte, il n'y a pas de mal. Comme Aïcha radiallahu anha lui faisait. Vous avez entendu la sunna? Vous avez entendu les petits frères? Vous crachez comme ça. D'accord? Vous récitez qul wallahu ahad jusqu'à la fin. Qul a'udhu bi rabbil falaq jusqu'à la fin. Ensuite, c'est quoi déjà? Qul a'udhu bi rabbin nas jusqu'à la fin. Après, on fait quoi déjà? On s'essuie, en commençant par le haut du corps. Là, je l'ai fait une fois. Est-ce que je m'arrête comme ça? Non? Qu'est-ce que je fais ensuite? Encore combien de fois? Encore deux fois. Donc, en tout, ça fera combien? Ça fera trois. Merci, j'avais compris, jeune homme. Barakallahu fik pour ta précision. Donc, ça, c'est une grande sunna du prophète, alayhi salat wa salam, avant de dormir, qu'Allah azza wa jal nous aide à l'appliquer. Ensuite, après avoir fait le dua, on met la ferme intention de se réveiller pour adorer Allah Azza wa Jal. Et on espère dans ce sommeil, un sommeil réparateur, on espère la récompense chez Allah. Parce qu'on se repose pour pouvoir se réveiller avec vigueur pour adorer Allah. Ainsi, tout le temps que tu dormiras, t'es récompensé par cette bonne intention. Aussi, celui qui a le sommeil lourd se couche plus tôt. Naam, et il délaisse ce qui peut l'empêcher de se lever tôt, comme le fait de dormir rassasié. Naam. Et l'oreiller, à chaque fois qu'on pose notre tête dessus, qu'on se rappelle cette pierre. Qu'on se rappelle cette pierre, que cet ange lui jette sur la tête, ce beau visage, ce doux oreiller. Si on ne l'utilise pas comme un bienfait d'Allah Azza wa Jal, on doit avoir peur que l'effet du péché de délaisser la prière du Fajr à l'heure nous amène cette conséquence. Naam, nous amène cette conséquence, wala hawla wala quwwata illa billah. Qui se rappelle quel était le deuxième châtiment infligé à la personne? On lui rentrait un crochet et on déchirait sa face. Naam. Cet homme-là, qala al-malak fa inna ar-rajul yaghdu min bayti fa yakdhibu al-kidhbata tablughu al-afaq. L'homme à qui on entrait le crochet, on lui déchirait le visage, c'est un homme, il sort de chez lui, il profère un mensonge, yakdhib. Hadha al-kadhib yatir ila aqsa al-amakin. C'est un homme qui sort de chez lui, il ment, et son mensonge se répand et atteint l'horizon. Là, on parle de l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Pour traverser la péninsule arabique et arriver au Sham, il fallait un mois. Imaginez, s'il mentait, il fallait un mois. Aujourd'hui, dites-moi, pour propager un mensonge dans le monde, il faut combien de temps? Wallahi, un clic, il propage un mensonge dans le monde entier. Un clic, il propage un mensonge dans le monde entier. Naam. Comme c'est le cas sur Internet et sur les réseaux et ainsi de suite, wallah al-musta'an. Là, on voit les effets du mensonge. Et le pire des mensonges, c'est le mensonge sur Allah. Puis le mensonge sur le Coran, le messager d'Allah. Le mensonge sur les gouverneurs, ulat al-umur. Le mensonge sur les ulama. Le mensonge sur al-mu'minat, al-afifat. Le mensonge sur les femmes croyantes, chastes. Le mensonge sur al-salihin, sur les gens vertueux, et ainsi de suite. Les troisièmes personnes subissaient quel tourment? Il y avait un four. Et il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes les remontaient et les brûlaient d'en dessous. Et ils hurlaient. فَإِنَّهُمْ أَزُّنَاهُ وَالزَّوَانِ. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Quel était le quatrième tourment? L'homme qui nageait dans un fleuve rouge tel le sang. Arrivé sur la rive, on lui remplissait la bouche de pierre. فَإِنَّهُ أَكِلُ الرِّبَا. Il s'agit de celui qui consommait l'usure, les intérêts. Ensuite, l'homme qui avait l'apparence la plus laide jamais vue, فَإِنَّهُ مَالِكْ خَازِنُ النَّارِ. Il s'agissait de Malik, le gardien de l'enfer. Celui qui attisait et tournait autour du feu. Quant à l'homme qui était extrêmement grand, dont on ne voyait presque pas le visage de par sa grandeur, il s'agissait d'Ibrahim. Le prophète Ibrahim alayhi salam, autour de lui les enfants, كُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. Il s'agit de tous les enfants qui sont morts sur la saine nature. Ils sont morts avant qu'on ne dénature leur croyance. Et dans une autre version, pas ceux qui sont morts sur la fitra, ceux qui sont nés sur la fitra. Alors certains ont dit, Auladul muslimin wal mushrikin ya rasul Allah. Certains ont dit même les enfants des polythéistes au messager d'Allah. Il a dit wa auladul mushrikin. Il a dit même les enfants des polythéistes. Naam. Quant à ceux qui avaient la moitié d'une beauté éclatante et l'autre moitié d'une laideur déconcertante, qaumun khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a. Il s'agit des gens qui ont fait de bonnes œuvres, mais à côté ils avaient de mauvaises œuvres, qu'Allah nous pardonne. Ces gens-là arrivent la moitié, yani, d'une belle apparence et l'autre d'une mauvaise apparence. Ensuite, on les fait se laver dans un fleuve et ça fait disparaître cette laideur. تجاوز الله عنهم. À la fin, Allah Azza wa Jalla leur pardonne. Toute cette description, tous ces tourments et ces châtiments ont pour cause les péchés. Ont pour cause les péchés. Ainsi, on doit craindre les effets des péchés. Savez-vous à quel moment ces tourments-là auront lieu? Dans la tombe. Parce qu'il y a une version du hadith qui dit, et cela ne cessera d'avoir lieu, ila yawm al-qiyam. Fahadihi al-uqubat fil barzakh. Ay min adhab al-qabr. Ces tourments-là auront lieu dans la tombe. Barakallahu fik. Avant de s'approcher de chacun de ces péchés mentionnés, que chacun s'interroge, est-ce qu'il serait capable de supporter cela? Celui qui n'est pas capable de supporter cela, qu'il ne s'y aventure pas. Wa nas'alullah yatuba alayna. Wa min athari dhunubi wal ma'asi anna tuhdithu fil ardi anwa'an min al fasadi fil miyah wal hawa wal zuru'i wal thimari wal masakin. Parmi les conséquences et les effets des péchés, ce sont des causes qui amènent à la corruption de l'eau, de l'air, des cultures, les champs, des plantations et des demeures. C'est-à-dire les péchés sont comme une pollution et un poison qui s'infiltrent dans tout ce dont nous avons besoin au quotidien. Regardez, l'eau pour boire, l'air pour respirer, les champs pour cultiver et se restaurer, et les demeures pour loger et se couvrir. Eh bien, les péchés amènent le désordre dans tout cela. Allah nous dit dans le Coran, « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. » Le désordre est apparu sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont commis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie seulement de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Ici, il y a une grande leçon. Beaucoup disent, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tel malheur? Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi il y a telle injustice? Hein? La réponse, parce qu'ils n'ont pas obéi aux ordres du Seigneur. C'est à cause de ce que leurs mains ont avancé qu'il y a le désordre sur la terre. Et Allah n'est jamais injuste. Allah Azza wa Jal n'est jamais injuste. Et lorsqu'on dit que le désordre est apparu sur la mer, c'est pas la mer comme on l'entend, la Méditerranée et autres, non. C'est tout bout de terre où il y a de l'eau. Tout bout de terre sur la terre où il y a de l'eau. Si on fait des péchés, le désordre apparaîtra sur la terre et sur la mer, à cause de ce que nos mains ont avancé. Naam. Et il faut commencer par méditer sur la situation de notre foyer. Pour chaque désobéissance, il y a une corruption du foyer. Pour chaque désobéissance avancée, il y a une pollution de la qualité de vie dans ce foyer. Prenez pour exemple, celui qui dans son foyer, on récite le Coran, la parole d'Allah. On récite le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Les enfants révisent le Coran. Les parents le récitent. À l'heure de salat, il y a la salat qui est accomplie. Il y a la sortie vers le masjid. Naam. Il y a l'éducation. Il y a la crainte d'Allah Azza wa Jal. Dans ce foyer, qu'est-ce qu'on peut espérer? Wallahi, la descente de la baraka d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Allah fait miséricorde à un homme qui prie dans la nuit. Puis il réveille son épouse. Si elle peine à se réveiller, lui met un peu d'eau sur le visage. Allah fasse miséricorde à une femme. Elle se lève, elle prie un peu de la nuit, puis elle réveille son époux. À la fin de la nuit, s'il peine à se réveiller, elle lui met un peu d'eau sur le visage. La baraka d'Allah Azza wa Jal, elle vient avec son obéissance. À l'inverse, la pollution du foyer, la pollution de l'air, des cultures et autres, vient avec sa désobéissance. Avec sa désobéissance. Un des plus prédécesseurs disait, je désobéis à mon Seigneur et je vois la répercussion sur mon épouse et même sur ma bête. Ça veut dire, il monte à cheval et sa bête est malléable. Et quand il désobéit à Allah, elle est dure. Naam, elle est dure. Si ça, c'est une désobéissance, que dire alors de celui qui a pris pour mode de vie l'obéissance au shaitan et la désobéissance à Ar-Rahman. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Écoutez cela. À chaque fois qu'ils désobéissent, Allah suscite une punition. Allah suscite une punition. Naam. Et méditez le verset, une partie. Allah nous fait goûter une partie des conséquences des péchés. Pas les péchés, une partie seulement. Et regardez l'état de la terre. Regardez la corruption et le désordre qu'il y a sur la terre pour les conséquences d'une partie de nos péchés qu'on nous fait subir. Omar ibn Khattab, lorsque la pluie tardait, il disait aux gens, repentez-vous, sinon je ne vivrai plus avec vous. Allah n'est pas injuste. Et si la pluie a été retardée, c'est parce qu'ici, il y a des gens qui font des péchés. La hawla wa la quwwata illa billah. L'auteur nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala, j'ai oublié un passage, c'est que il y a wa min athari ma'asillah fil ard ma yahillu biha min al-khasf, les tremblements de terre, les éboulements de terrain, wa zilzal barakatiha, on enlève la baraka qu'il y avait dans la terre. On met des tremblements de terre et des éboulements de terrain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de Razwat Tabouk, la bataille de, le prophète sallam, lorsque, naam, en revenant de Tabouk, ils sont passés par le lieu où habitait Thamoud, le peuple de Thamoud. Il leur a interdit de passer par ce chemin-là et de boire de son eau. Naam. Pourquoi? Parce que l'effet des péchés se répercute sur la terre, sur l'air, sur l'eau et ainsi de suite. Et les anciens disent que la taille des fruits qu'ils ont connus est différente de celle que nous connaissons maintenant. Et rappelez-vous le hadith, lorsque le Mahdi, lorsque Isa alayhi salam descendra et répandra la justice sur la terre, il y aura énormément de baraka. À un point tel, vous connaissez le fruit ar-rumman, hein, la grenade, c'est comme ça qu'on dit. Lorsqu'on épluche, ça tient dans la main les épluchures, dans une main. Eh ben, ils vont s'ombrager. Ils vont se faire de l'ombre avec la peau de la rumman. Vous imaginez? Si je me mets debout et je peux me faire de l'ombre avec l'épluchure de la grenade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est immense, elle est gigantesque. Tellement il y aura de la baraka que la taille du fruit sera énorme. Et avec l'épluchure, ils vont se faire de l'ombre. Hein? C'est dû à quoi? C'est dû à l'obéissance qu'il y aura, à la justice qu'il y aura. À l'inverse, lorsqu'il y a les péchés et l'injustice, que se passe-t-il? Eh ben, les récoltes diminuent. Hein? Les récoltes diminuent. La baraka diminue. Au point qu'un groupe de gens pourra manger une grenade et s'abriter sous ses épluchures. Une grappe de raisin représentera une charge de chameau. Une grappe de raisin. On aura besoin d'un chameau pour porter cela. Naam. Lorsque la terre sera purifiée des péchés, apparaîtront les effets de la bénédiction d'Allah que les péchés de la mécréance avaient anéantis. Nul doute que les conséquences des châtiments qu'Allah a descendus ont persisté sur terre, cherchant des péchés semblables qui sont les conséquences de ces crimes par lesquels les communautés ont été châtiées. Les conséquences sur terre comptent parmi les conséquences des châtiments, de la même manière que ces péchés sont les conséquences de ces crimes. Ainsi, la sagesse d'Allah et sa loi universelle ont été en conformité au commencement et à la fin. Le grand châtiment frappait pour le grand crime, et le châtiment moindre pour le crime moindre. Plus on désobéit Allah Azza wa Jal, plus le désordre apparaît sur la terre, plus la baraka diminue, plus les gens font des péchés, le châtiment augmente et c'est un cercle incessant. Comment sortir de ce problème-là? En revenant vers Allah. De toute chose que tu crains, tu la fuis vers autrui. N'est-ce pas? Sauf Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans le Coran, fafirru ilallah. Fuyez vers Allah. Le seul que tu fuis de lui vers lui, c'est Allah azza wa jalla. Hein? Lorsque tu veux sortir, mais que ta mère te dit non, est-ce que tu as une méthode, une technique pour réussir à sortir? Tu dis, tu vas à la mosquée? MashaAllah. Allah al-musta'an. Allah rahmak. Vous n'avez pas d'autre méthode plus halal, hein, plus subtile? Tu vas voir quelqu'un qui a plus de pouvoir normalement. Tu dis que tu vas étudier, mais tu vas étudier pour de vrai après. Évidemment. Naam. Vous partez trop loin. Par exemple, tu vas voir quelqu'un d'autre. Tu demandes à ton père. Ça, tu me rassures. Naam, on est en 2024, mais on est à Tanger quand même. Donc, tu demandes à ton père, comme si tu n'avais pas demandé à ta mère, et ton père, vu qu'il veut un peu la paix, peut-être qu'il va te dire quoi? Tu peux y aller, et ensuite tu vas faire comme si tu sortais, et ta maman, elle va te dire quoi? Je t'ai dit de pas sortir, tu me désobéis, tu dis non, Abi, il a dit que je pouvais. N'est-ce pas? Donc, tu fuis l'interdiction de la mère vers la permission de qui? Du père. Naam. Ça, c'est notre génération, vous, qu'Allah vous facilite. Donc, ça, la mienne, du moins. Naam, entre moi et vous, Allahu a'lam. Donc, mais si tu veux te sauver d'Allah Azza wa Jal, est-ce que tu peux te sauver vers une autre divinité aussi forte, hein, aussi grande, aussi omnipotente? Non. Donc, fafirru ilallah. Sauvez-vous vers Allah. C'est ainsi qu'on pourra être sauvé de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on sait et qu'on ne sait pas comme effet des péchés. On marque une pause, on va prier, puis on revient, inshallah ta'ala, pour continuer la lecture du livre. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.